Chapitre 32. Lucie n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Contrairement à Franck, elle avait pourtant essayé d'aller se coucher. Mais c'était finalement juste recroquevillée sous les draps, pour laisser les minutes s'égrener. Elle avait imaginé Nicolas auprès d'Audra, en train de leur parler à elle et aux petits. Il leur confiait ses derniers mots, leur disait à quel point il les aimait. C'était comme l'attente d'une mise à mort, insupportable. Il était maintenant 8h15, et elle évoluait déjà dans Paris, fatiguée physiquement et nerveusement. Elle errait à 3 kilomètres du cabinet d'Éric Launay, s'en éloignait en toute conscience. Elle voulait marcher, marcher vite pour ne pas penser, marcher vite pour que la brise fraîche rougisse son visage et lui colle des larmes glacées dans les yeux. Le long du quai Voltaire, elle regarda encore sa montre, 8h25, et s'arrêta plus loin sous un pont. Peut-être aurait-elle dû être à l'hôpital aux côtés de Franck et Nicolas, ou auprès de ses collègues au 36. Mais elle était ici, face à la Seine, le seul endroit où en ce moment elle désirait être. De sa poche, elle sortit un foulard mauve que lui avait un jour prêté Audra et que cette dernière n'avait jamais voulu récupérer. C'était toute elle, généreuse. Bon Dieu, elle leur manquerait jusqu'au fond de leur tripe. Comment comblerait-il le vide qu'elle allait laisser? Lucie renifla une dernière fois l'étoffe et la jeta dans le vent. Celle-ci s'envola, dansa dans l'air, comme pour la saluer, et plongea en direction du fleuve avant de disparaître. Il devait être 8h30 passées. Désormais, il l'avait sans doute débranchée. C'était fini. Audra et son bébé étaient morts, alors que la terre continuait de tourner. Lucie fit demi-tour, le cœur plein de rage, et comprit mieux à cet instant l'acharnement de Franck. Fermont n'était plus là pour payer, mais il fallait que quelqu'un règle son ardoise. Reconstituer l'histoire d'Emma Dotti était une façon de lui rendre justice. Une demi-heure plus tard, elle arriva à l'adresse qui figurait sur le site, à une encablure de la maison de la radio. Une plaque indiquait que le cabinet du psychothérapeute se situait au premier étage d'un immeuble haussmannien de bonne allure. Avant de pousser l'imposant battant, elle consulta son portable. Aucun message de Charcot. Elle imaginait l'ambiance morbide à l'hôpital, la détresse de Nicolas, ses cris dans les couloirs. Franck avait certainement bien plus urgent à faire que de lui envoyer des SMS. Décidée, elle entra, grimpa l'escalier et sonna à la porte. Une poignée de secondes s'écoula, puis l'homme qu'elle avait vu en photo lui ouvrit. Court sur pattes, mais trapu, il avait la pupille droite dilatée à la David Bowie. La flic lui donna une 40aine d'années, malgré une calvitie prononcée. Face à son air interrogateur, elle se présenta en quelques mots et énonça l'objet de sa visite. Aussitôt, Launay l'invita à pénétrer dans un grand cabinet. Plafond haut, parquet, larges fenêtres et meubles anciens. Là, il s'assit dans un Chesterfield et lui désigna une chaise. Lucie remarqua tout de suite la statuette de Saint-Christophe posée sur le bureau, le patron qui protège les voyageurs. « Je me souviens très bien d'Emma Dotti, » déclara-t-il. « J'espère sincèrement qu'il ne lui est rien arrivé de grave. » Lucie ne dit rien, l'encourageant d'un simple hochement de tête à poursuivre. « On a discuté un bout de temps. On était sur la même longueur d'onde. Comme moi, elle avait l'intime conviction que certaines personnes avaient eu accès à l'autre côté lors d'une EMI et qu'il s'agissait de tout sauf d'un lieu d'apaisement. » La lieutenant ne se sentait pas à l'aise. Bien sûr, les événements à l'hôpital avec Audra la perturbaient, mais ce type, avec son œil qui semblait regarder au fond d'elle, n'était pas du genre à la rassurer non plus. Elle tenta néanmoins de rester concentrée. Cette rencontre était importante. En fait, elle avait elle aussi vécu une expérience particulièrement étrange et intense, reprit le psychothérapeute. Elle m'a parlé de ses parents, du drame qui les a emportés quand elle était gamine. Vous êtes au courant, je présume. En effet. Mais peut-être ignorez-vous ce qu'elle a réellement vécu dans la voiture ce fameux jour où elle a été épargnée. Tout en confirmant, Lucie eut soudain la certitude qu'elle n'avait pas fait le déplacement pour rien. tous ceux qui se sont occupés d'elle après le décès de ses parents, à commencer par la tante qui l'avait recueillie, ont essayé de la convaincre qu'elle avait fantasmé. Elle a eu droit à de nombreuses séances chez un psy pour enfants, au point qu'elle-même avait fini par ne plus y croire. Ne plus y croire à quoi ? Alors que l'accident venait juste de se produire, elle a entendu des choses. Comment ça ? Des ricanements, des rires diaboliques, et elle était parfaitement consciente quand elle les a entendus. Les poils de la flic se hérissèrent. Cette histoire était tellement glauque. Tout est remonté à la surface lorsqu'elle a commencé son travail sur la mort, expliqua Loney. Elle m'a montré les visages effroyables de soldats et de personnes exécutées sur des barbelés. Elle était persuadée qu'ils avaient également entendu ces démons. Pire, qu'ils avaient entrevu l'enfer au moment de mourir. Et Emma n'avait qu'une obsession, savoir à quoi ça ressemblait. C'est donc pour cette raison que les EMI négatives l'intéressaient. Des gens pouvaient témoigner. Évidemment, elle cherchait ce que je cherche depuis des années. Un point commun à ces récits. La description précise d'un lieu, d'une forme, n'importe quoi qui prouverait que l'enfer n'est pas qu'une vision de l'esprit chrétien et occidental. Qu'il est bel et bien réel et qu'il est le même pour tous. Elle voulait s'assurer que ce qu'elle avait vécu n'était pas un mirage. En temps normal, ce discours aurait paru lunaire à Lucie et elle aurait pris le psychothérapeute pour un illuminé qui tournait aux champignons hallucinogènes. Mais plus elle s'enfonçait dans cette enquête, plus ses convictions s'effritaient. Et vous l'avez trouvé, ce point commun ? La quasi-totalité de ceux qui ont vécu des EMI négatives avaient auparavant rejeté Dieu. Et vous savez ce que dit la Bible ? L'enfer est réservé à ceux qui n'honorent pas Dieu comme le créateur de leur existence et qui refusent de le reconnaître comme le centre de leur monde. Dernièrement, j'ai rencontré un homme de 78 ans dont le cœur s'est arrêté plus de 6 minutes avant qu'on le réanime. Lui non plus ne croyait pas en Dieu. Lorsqu'il relate son EMI, il parle d'un démon en particulier. Doté de 8 membres velus, celui-ci se déplace à la manière d'une araignée et inlassablement lui ouvre et lui referme le ventre pendant que des forces le poussent vers une caverne noire où trône une silhouette qu'il n'arrive pas à décrire. Il y a dans tous les récits cette récurrence de la souffrance perpétuelle, ainsi que la présence de cette forme indéfinissable au bord de la caverne. La flic se rappelait avoir vu le démon araignée dans le diorama où Doty était suspendu, mais également sur un dessin de Philippe Dubois. Elle se garda cependant de partager ces informations avec Loney, qui lui s'empara de son Saint-Christophe et commença à le manipuler machinalement. Lucie comprit mieux son rôle dans le bureau. Il protégeait non pas un voyage physique, mais spirituel. Aucune science n'est capable d'expliquer ça, et d'ailleurs personne ne veut s'attaquer au sujet, continua-t-il. Le tunnel blanc, les gens avec des sourires de bienvenue, oui. Mais les visions infernales, on préfère ne pas se pencher dessus, parce qu'on est tous destinés à mourir et que l'idée que ce soit agréable nous rassure. Et puis, ces témoignages sont encore trop marginaux pour avoir du poids. Peu importe, finalement. Moi, ça fait longtemps que je suis convaincu. En même temps, il faut entendre tous ces individus vous raconter ce qu'ils ont vécu, à quel point ils sont ressortis traumatisés de leur voyage. C'est fou. Et étrangement, nombre d'entre eux se sont ensuite tournés vers Dieu. Comme Nebraza, Lucie était troublée par ce que lui confiait le spécialiste. Mais elle décida de recentrer l'entrevue sur la raison de sa venue. J'essaie de retracer le parcours d'Emma, de comprendre son cheminement. Est-ce vous qui l'avez orientée vers Philippe Dubois ? Effectivement, elle voulait échanger avec des témoins de ses EMI négatives. Vous saviez qu'il s'était récemment suicidé à Sainte-Anne ? Éric Loney accusa le coup. Non ? Non, je n'étais pas au courant. Nos entretiens remontent à un peu plus de 2 ans, je dirais. J'ignorais même qu'il était allé en HP. En fait, il était de ceux qui n'ont jamais souhaité échanger avec moi physiquement, mais il répondait volontiers à mes sollicitations par mail. Comment ça s'est passé ? Lucie lui raconta rapidement, puis, au fil de ses questions, s'aperçut qu'Emma avait collecté de précieux renseignements, tout en parvenant à garder secrète la plupart de ses recherches. J'aimerais récupérer tous les contacts que vous avez transmis à Emma Doty. En effet, il se peut que sa disparition soit liée à l'une de ces rencontres. Aucun problème. Je lui en avais envoyé une dizaine. Le message doit encore être dans un dossier. Le psychothérapeute alla aussitôt s'installer devant son écran et fit une série de manœuvres. Pour quelques-uns de ses contacts, je ne lui avais fourni qu'une adresse mail parce que c'était tout ce que je possédais. Pour d'autres, c'était une adresse physique ou un numéro de téléphone. Je m'en débrouillerai. À tout hasard, est-ce que certains de ces individus ont été victimes d'un phénomène de blanchiment subit des cheveux ? Launay releva des yeux intrigués. L'un d'entre eux, oui. Rémi Calvar. Il m'a expliqué que du jour au lendemain, ses cheveux et ses poils se sont mis à blanchir à la racine. Comment êtes-vous au courant ? C'est arrivé à Dubois et à un autre homme, ainsi qu'à des soldats durant la Première Guerre mondiale. Ils auraient éprouvé une terreur telle que leur corps aurait connu un dérèglement hormonal intense. Bon sang, c'est un sacré truc ce que vous me racontez là, s'exclama Launay surexcité. Vous vous rendez compte ? 3 EMI négatives et cette incroyable réaction capillaire. Si c'est possible, j'aimerais que vous me teniez informé de vos découvertes. Ça ouvre des perspectives folles. Pour une fois, on aurait des éléments concrets à mettre entre les mains des sceptiques. Lucie acquiesça. Il avait été réglo et elle lui devait bien ça. Dans la foulée, il se dirigea vers une armoire et se mit à fouiller dans de petits casiers. Rémi Calvar a une 30aine d'années. Je n'ai pas son adresse exacte, mais il habite dans un bled qui s'appelle Marine, je crois, dans le Vexin. Il est un jour tombé sur mon site et a accepté de se déplacer jusqu'à mon cabinet pour témoigner. Le psychothérapeute se retourna à cet instant avec une clé USB en main. Il était comme du bois, marqué en profondeur par son EMI. Non seulement il avait vu l'enfer, mais il affirmait que les portes ne s'étaient pas complètement refermées lors de son retour parmi les vivants. Les démons le harcelaient ici, dans notre monde. Il fallait absolument que Lucie lui parle. Ils étaient désormais 3. 3 à souffrir du même mal. Elle espérait juste qu'il ne se soit pas suicidé ou qu'il ne soit pas devenu fou allié. Cette clé, ajouta Launay, contient l'enregistrement où Calvar me raconte pour la première fois son EMI. Je vais vous le copier. C'est sans doute le plus effroyable des récits que vous entendrez de toute votre vie. Après ça, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais envie de mourir.